Coxigru et Calambredaine.
Coxigru et Caxinglebelle. Coxigru et Calambredaine. Coxigru et Calambredaine.
Coxigru et Calambredaine.
Vers de terre, toi qui rampe, ventre à terre. Vers de terre, tu es nimbé de mystère. Tu es si beau, tu es si long, avec tes anneaux par millions. Tu es si beau, tu es si long, s'il te plaît, quel est ton nom?
Hey, je m'appelle Antonio et tu es en train de parler à mon derrière, petite.
T'es pas bon, hein, vers de terre.
Mais t'es folle, complètement folle. Même en train de me mordre les coups.
Salut à tous et bienvenue dans Coxigru et Calambredaine. Donc Coxigru et Calambredaine, un programme destiné aux enfants et aux grands-enfants. Donc à l'écoute sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Histoire et Contes. Et plus précisément Coxigru et Calambredaine. Donc déjà pour commencer, je vous salue tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, donc premier hein, de cette rentrée 2013-2014, numéro de Coxigru et Calambredaine. Donc aujourd'hui, à l'honneur, les animaux. Donc pour commencer, on ira visiter la petite renarde rusée et vous verrez qu'être petit par la taille ne rime pas forcément avec petit par l'esprit. Suivra tout naturellement le feu des Indiens. Eh bien, je vous laisserai découvrir ce récit.
La petite renarde rusée. Dans la jungle, rien ni personne ne pouvait échapper au tigre, ce grand dévoreur de tout. Termites, mulots, tapirs ou éléphants, tous le craignaient et prenaient garde à ne pas croiser sa piste. Mais ce jour-là, catastrophe! La petite renarde se retrouve truffe à truffe avec le redoutable animal. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, rien à faire. Pas le moindre terrier, pas le moindre bosquet où se réfugier. Il fallait faire face. L'énorme gueule du monstre était déjà béante, tout croc dehors, quand la renarde, se redressant sur ses pattes, apostropha le tigre en ces termes. En garde, gros balourd, je vais te donner une leçon dont toi et les tiens se souviendront longtemps. Stupéfait, le tigre éclata d'un grand rire qui secoua la jungle. Ne sois pas ridicule, comment pourrais-tu me battre? Même les hommes avec leurs sagaies me craignent. Peut-être ont-ils peur de toi, rétorqua la renarde, mais ce n'est rien en comparaison de la terreur que je leur inspire. « Sors net !» gronda le tigre. « Tu dis n'importe quoi !» La renarde plissa les yeux et dit « Tu veux une preuve ? Eh bien, suis-moi, gringalet, tu verras bien !»« Je rêve !» songeait le tigre, horriblement vexé. « Comment un si petit animal pouvait se prétendre se mesurer à lui ?» Et la renarde se mit à galoper vers le village, le tigre derrière elle. Mais elle prit bien soin de courir dans les hautes herbes. Si bien qu'aux abords du village, ce ne fut pas elle qu'on vit, mais le tigre bondissant à sa suite. Fous de terreur, les villageois se barricadèrent à double tour ou s'enfuirent en criant dans la jungle. Bientôt, les deux animaux s'arrêtèrent. La petite renarde se dressa au-dessus des hautes herbes et dit au tigre « Tu vois bien qu'on me redoute beaucoup plus que toi !» Tu vois bien qu'on me redoute plus que toi. Dès que j'arrive dans un village, les gens décampent à toutes jambes, épouvantés, et ne prêtent même pas attention à toi. Le tigre fut bien obligé de reconnaître l'humiliante vérité. Et parce que, comme tous les vantards, il était aussi peureux qu'imbécile, il s'enfuit loin de ce terrible animal à la queue touffue. La petite renarde, ravie du tour qu'elle venait de jouer à ce gros prétentieux, s'en revint tranquillement chez elle. Esprit malin est bien plus redoutable que crocs pointus et rugissements féroces. Ricana-t-elle au fond de son terrier.
Le feu des Indiens. Conte des Indiens d'Amérique du Nord. Le soir, quand le soleil descend derrière les collines, la coutume veut que les anciens racontent les légendes du peuple indien. Guerriers, squaws et papouses s'empressent autour du conteur. Et dans la nuit qui s'avance, sa voix s'élève. Il y a longtemps, si longtemps que les animaux parlaient encore, était une vallée maudite. Il n'y avait ni automne, ni printemps, ni été. L'hiver s'était installé une fois pour toutes. Les animaux, l'herbe et les arbres, tous subissaient sa loi, faite de pluies et de vent, de glace et de neige. Une nuit plus noire que les autres, une terrible tempête s'abattit sur la vallée, dévastant tout sur son passage. Elle déracinait les arbres, arrachait les rochers, gonflait les rivières, bousculait les animaux qui fuyaient en hurlant leur terreur. Seul, au milieu des marécages, un érable résistait. Ne faisant aucun cas du sinistre tumulte, il chantait les beautés du printemps. La tempête, furieuse, lança sur l'érable ses vents les plus violents. L'arbre continua de chanter. Alors, elle jeta sur l'insolent une gerbe de foudre qui le calcina sur le champ. Chante tant le printemps quand je dévaste le monde, rugit-elle satisfaite. Mais, alors que la tempête jetait plus loin ses fureurs, on entendit une musique monter dans l'air. C'était le chant de l'érable que le feu de la foudre, charmé, avait préservé dans ses flammes vives. Et les langues rouges, montant des racines brûlées, disaient les beautés du printemps. Peu à peu, le chant s'amplifia, glissa sur l'écume des flots et atteignit enfin une grotte où les animaux s'étaient réfugiés. L'entendant, ils osèrent sortir et, tremblant de peur et de froid, guidés par la mélodie, ils gagnèrent une falaise qui surplombait l'îlot. Au milieu gisait l'érable foudroyé qui brûlait toujours. « C'est le feu qui chante !» s'exclama l'ours. « Je le connais, il réchauffe tous ceux qui l'entourent. »« Il nous le faut, » dit l'araignée. « Je cours l'attraper. » Le corbeau l'arrêta. « Ne sois pas ridicule avec ton corps chétif et tes pattes difformes. Comment t'y prendrais-tu ? J'irai, moi. » Et l'oiseau s'envola vers l'îlot, mais on ne capture pas le feu aussi facilement. Et le corbeau n'est pas connu pour sa ruse. Attrapant de sa griffe un tison qui traînait, il se brûla si cruellement la patte et les ailes qu'il reprit bien vite le chemin des airs. « Tu n'es qu'un maladroit, » lui dit le lézard. « Et tes plumes brûlent trop bien. Moi j'ai la peau sèche et rêche. Laissez-moi faire. » Mais on le vit revenir plus vite encore que le corbeau, la queue carbonisée. Les animaux commençaient à se demander s'ils pourraient jamais capturer le feu. Alors l'araignée fit entendre de nouveau sa petite voix. « Je sais, moi, comment ramener le feu ?» Cette fois, on ne se moqua plus d'elle. Ils la regardèrent partir vers l'îlot. Le voyage fut long. La tempête avait semé tant et tant d'obstacles derrière elle. L'araignée dut les franchir un par un, lentement, avec mille précautions. Enfin, elle parvint à l'îlot et s'approcha des braises encore fumantes. Doucement, elle se mit à tisser un fil solide et très long, puis l'enroula autour d'un tison, qu'elle choisit bien rouge. Grâce à quelques paroles magiques connues d'elle seule, elle réussit à empaqueter la braise sans que le fil brûlât. Jetant le paquet sur son épaule, elle reprit le chemin du retour. Son cœur était si léger à l'idée de rapporter le feu à ses compagnons que le voyage, pourtant interminable, ne lui pesa pas. Quand elle atteignit la falaise, les animaux lui firent la fête, mais si tous voulurent voir son butin, personne n'osa y toucher. Comment apprivoiser le feu quand l'araignée déroulait son fil ? La chouette, sage et prudente, s'approcha du tison. « Le feu nous a chanté son amitié et nous donne une partie de lui-même. Il faut le nourrir si nous voulons sa douce chaleur. » Les animaux réfléchirent. Que pouvait-il bien manger le feu ? « Des noisettes !» lança l'écureuil. « Du miel !» grogna l'ours. « Du maïs !» caqueta la poule. Ce fut le bouleau qui trouva la solution. « Donnez mon écorce à notre ami !» dit-il. Mon père me racontait souvent combien nous, les bouleaux, étions appréciés pour notre écorce, combien elle brûlait bien. Alors, le castor s'approcha de l'arbre et d'un coup de dent fit tomber en lambeaux de sa robe blanche et noire qu'il jeta sur la braise. Puis il agita sa queue plate au-dessus du tison, comme un éventail, et bientôt s'éleva une flamme chaude et belle. Depuis ce jour, grâce à l'araignée, au castor et au bouleau, on nourrit ainsi le feu pour qu'il ne meure pas. La voix du vieux conteur s'est tue. Les hommes, les femmes et les enfants sont silencieux autour du grand feu. Ils écoutent les flammes chanter la mélodie que l'érable leur a apprise. Il y a bien longtemps, au milieu de l'îlot, quand la tempête se soufflait sur la vallée maudite.
Pour continuer cette jolie aventure, je vous propose Du pain pour le loup, un conte à comprendre le pain jusqu'à la dernière miette.
Du pain pour le loup. Il était une fois un loup qui n'aimait pas chasser. Personne ne chassant à sa place, le loup n'avait rien à manger. Un jour, poussé par la faim, il sortit du bois. Un moissonneur, qui avait justement passé sa matinée à moissonner, mangeait son casse-croûte au bord d'un champ. Le loup s'approcha et s'assit en face de lui. « Bon appétit !»« Merci !» répondit l'autre tranquillement. Le loup se lécha les babines. « Dis-moi, qu'est-ce que tu manges là ?»« Ma foi, je mange un morceau de pain. »« Ça a l'air bon !» dit le loup. Nous, on n'en mange jamais, nous, les loups. Et l'homme coupa une tranche de son pain. Tiens, dit-il au loup, goûte, tu m'en diras des nouvelles. Le loup retroussa délicatement ses grandes babines, puis referma ses dents pointues sur la tartine et la dévora tout entière. Très bon, délicieux, excellent. Mais dis-moi, vous en mangez souvent, vous ? « Ah ça oui, dit le moissonneur. Nous, le pain, c'est tous les jours et même plusieurs fois par jour. »« Oh !» dit le loup. Il resta un petit moment tout pensif à regarder le moissonneur. « Dis, j'aimerais bien, moi aussi, manger du pain tous les jours, » finit-il par dire. « Qu'à cela ne tienne, » répondit l'homme, « tu n'as qu'à semer du blé. » Le loup, plein d'espoir, se vit débarrassé de la corvée de la chasse grâce à une récolte de bon pain. « S'il te plaît, apprends-moi à semer du blé !» demanda-t-il au moissonneur. « Rien de plus simple. D'abord, il faut labourer la terre. »« Et alors, le pain pousse ?»« Voilà, pas si vite !» fit le moissonneur. « Après le labourage, il faut hercer et puis il faut semer. Hein, c'est là que le pain pousse ?» Eh que nenni, là tu attends, et comme tu sèmes à l'automne, le blé passe l'hiver dans la terre et c'est au printemps qu'il germe. Hein, on mange le pain au printemps alors, mais tu n'y es pas, le blé doit mûrir jusqu'au milieu de l'été. À ce moment-là, tu le coupes, tu en fais des gerbes, tu les rassembles en petites meules. Mais le pain, interrompit encore le loup. « C'est là que tout commence, reprit le moissonneur. Quand les meules ont bien séché au soleil, tu rentres le blé dans ta grange, tu le bats, tu le vannes, tu le portes au moulin, et là, le pain !» s'exclama le loup qui n'en pouvait plus. « Doudou, dit l'homme, il faut d'abord moudre ton blé en farine. Et avec ta farine, tu fais ton pain. Fit le loup. Une minute, reprit le moissonneur. Ça n'est pas fini. Pour faire ton pain, tu prépares ta pâte, tu la pétris, tu y mets du levain, tu la laisses reposer. Et quand elle a bien levé, tu la fais cuire. Oh ! Le loup était épuisé. Et alors ? Eh bien, c'est du pain ! S'écria le moissonneur tout content. Le loup ne dit rien. Il regarda l'homme avec un air désolé. Il soupira. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda le moissonneur. Je pourrai jamais. C'est trop long. Tu n'aurais pas quelque chose de plus facile ? Quelque chose à manger tout de suite ?
Rien du tout, répondit le moissonneur.
Rien ? Il était vexé. Nous autres les hommes, nous n'avons rien sans travailler. Si tu ne veux pas de pain, retourne dans les bois et débrouille-toi. Sur ce, il attrapa sa besace et sa faux et s'en alla moissonner. Quant au loup, il rentra dans le bois et se mit en chasse de son dîner.
Pour l'histoire qui va suivre, tête de loup à la sauce matou, encore une fois, la ruse prime sur les muscles. Tête de loup à la sauce matou. Il était une fois un petit vieux et sa petite vieille qui habitaient au beau milieu de la forêt. Un chat partageait leur logis, ainsi qu'un agneau qui broutait l'herbe aux alentours. Tout allait pour le mieux. Quand un jour, le matou fit une bêtise. En léchant en cachette un peu de crème fraîche, il bouscula le pot qui tomba et se cassa à grand fracas. La vieille avait bon caractère, mais cette fois, elle se mit en colère.
« Il faut chasser ce chat de chez nous » cria-t-elle dans les oreilles du vieux. « Il ne sert à rien. Il mange la crème et il nous casse tout. »
Le chat, entendant ces propos, fila dehors retrouver l'agneau.
« Agneau, agneau, il faut vite nous sauver dans la forêt. Le vieux et la vieille ont décidé de nous tuer. J'ai tout entendu. Mais, bêla l'agneau tout ému. « Mais je ne peux pas sortir d'ici, moi. Mon enclos est fermé. »«
Attends, je t'ouvre !» dit le chat.
Il leva le loquet de sa patte et hop, il poussa la porte. Le chat et l'agneau s'éloignèrent doucement de la maisonnette, puis ils coururent très vite et très loin. Ils couraient encore quand soudain, au détour d'un buisson, ils tombèrent nez à nez avec une grosse tête de loup posée par terre. Les deux compères, d'abord épouvantés, virent bientôt que la tête n'avait ni corps ni cou.
« Emportons-la !» dit le chat. « On ne sait jamais, ça peut servir !»«
Si tu le dis !»
acquiesça l'agneau. Un peu plus tard, ils cherchaient un coin pour dormir quand ils aperçurent une lumière. Au milieu d'une clairière, 12 loups s'étaient réunis autour du feu. Le chat et l'agneau, d'abord terrorisés, chuchotèrent un moment, puis s'approchèrent du feu.
« Bonsoir, loup !»
Les loups n'en crurent pas leurs oreilles et leurs yeux.
« Bonsoir, chat. Bonsoir, agneau. » finissent-ils par répondre.
Ils se mirent tous à se lécher les babines, car les loups sont ainsi faits qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Le chat s'assit près du feu, faisant mine de ne rien voir.
« Hola, mon compère !» dit-il très fort à l'agneau. « Apporte ici notre gibier de tout à l'heure, nous allons régaler nos amis !»
L'agneau avait compris. Il s'enfuit dans les buissons et revint un instant plus tard avec la tête de loup. Les loups faillirent en avaler leur langue de stupeur. Un silence de mort tomba sur l'assemblée quand on entendit le chat protester.
« Ah non, 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 pas celle-ci, elle est minuscule. Vas-en chercher une plus grosse, je te prie. »
L'agneau, docilement, remporta la chose, disparut dans les buissons, gratta un moment, puis revient avec la même tête de loup. Le chat le regarda avec dédain. « Mais non, apporte la plus grosse, voyons, nos amis loups ont faim !» L'agneau reprit la tête et fit de nouveau semblant d'aller en chercher une autre. « Fort bien, celle-ci me semble raisonnable, » dit alors le chat. « Fais-la vite rôtir, j'ai hâte de passer à table. » Les loups ne se léchaient plus du tout les babines. Ils se voyaient déjà décapités par l'agneau et le chat. Ils imaginaient leur tête tournant sur une broche. Leurs poils se dressaient d'épouvante, mais ils n'osaient bouger et s'efforçaient de faire bonne figure. Quatre d'entre eux se levèrent, pattes tremblantes. « Camarades, le bois commence à manquer pour notre feu. Si vous le permettez, nous allons en chercher un peu. »«
Bonne idée, dit le chat. Surtout, revenez vite. »
Mais à peine les loups eurent-ils gagné l'obscurité de la forêt qu'ils se mirent à courir à toutes pattes. Voyant qu'ils tardaient à revenir, quatre autres loups proposèrent de partir à leur recherche.
« Allez-y, dit le chat, et ramenez-les vite !»
Évidemment, au bout d'un long moment, personne n'était revenu. Alors, les quatre derniers loups se levèrent à leur tour pour aller s'enquérir de leurs camarades.
« D'accord, dit le chat, mais gare à vous si vous ne revenez pas !»
Et les quatre derniers loups détalèrent à toute allure. Très loin du feu, ils rejoignirent les autres loups. Un ours qui passait par là les trouva encore tout essoufflés, effrayés et penauds.
« Qu'est-ce qui vous arrive ? » s'étonna-t-il. « Vous avez rencontré des chasseurs. »
« Pire, dit l'un des loups, nous avons failli être tous massacrés par un chat et un agneau. »
L'ours crut qu'il n'avait pas bien entendu, mais quand les loups lui racontaient leur aventure, il se mit à rire de bon cœur.
« Un chat et un agneau, mangez des loups. Mais vous n'êtes pas des souris, mes amis. Il fallait les dévorer tout cru. Un point, c'est tout. Allons-y ensemble, je vais vous montrer, moi. »
C'est ainsi que les 12 loups repartirent vers la clairière avec l'ours. Quand ils les virent arriver, le chat et l'agneau, qui se chauffaient tranquillement près du feu, tout contents de leur ruse, eurent très peur. Le chat bondit dans un arbre, mais l'agneau, lui, ne savait pas grimper. Il ne put que s'accrocher vaille que vaille à une petite branche basse et il resta pendu dans cette mauvaise position. En arrivant dans la clairière, l'ours fut très déçu de ne trouver personne, tandis que les loups, secrètement, étaient plutôt soulagés. Tous s'assirent près du feu pour décider de la suite. Cependant, l'agneau avait des fourmis dans les pattes et n'en pouvait plus.
« Adieu, chat !» murmura-t-il. « Je sens que je vais tomber !»«
Tiens bon ! Tiens bon ! Ils vont partir !» dit le chat.
Mais à ce moment-là, la petite branche cassa et l'agneau tomba pile sur la grosse tête de l'ours.
Alors, le chat se mit à crier. « Mouaou ! Tiens bon, agneau ! Tue-le ! Nous le mangerons pour dîner !»
L'ours crut sa dernière heure venue. Il secoua sa tête si fort que l'agneau valsa dans un buisson, tandis que le gros animal fuyait en grognant de terreur dans la forêt. Les loups, eux, étaient déjà partis. Ils avaient filé dès que l'agneau était apparu. Quand le calme fut revenu, le chat et l'agneau décidèrent de rentrer dans leur chaumière.
« Assez d'aventure, dit le chat. Je veux mon coussin. Et moi, mon enclos d'herbe verte, dit l'agneau. »
En les voyant arriver, au petit matin, le petit vieux et sa petite vieille leur firent fête. Ils avaient oublié le pot cassé et regrettaient fort leur compagnon. Ainsi, le vie reprit son cours normal dans la petite chaumière au milieu de la forêt et tout alla pour le mieux. Tout de suite, nous pouvons saluer ce fameux mouton Marcel, un petit mouton un peu globe-trotteur, mais mouton avant tout.
Le mouton Marcel, texte de Jean-Luc Coudray, édition Milan, 1989, extrait. Le mouton Marcel est en ville. Le mouton Marcel avance à 33 km à l'heure sur la file de droite, doublé continuellement. Pour son anniversaire, le mouton Marcel a quitté la campagne. Trop d'herbe, trop de vent, pour la ville, beaucoup de choses à voir. Dès les premières minutes, le mouton Marcel brûle un feu rouge et s'engage dans un sens interdit, toujours à la vitesse de 33 km à l'heure. Un agent siffle. « Votre carte d'identité !» Par bonheur, le mouton Marcel possède une carte d'identité. « Votre permis de conduire ?» Le mouton Marcel n'a pas de permis. « Mais je suis à pied !» dit le mouton Marcel. « À 33 km à l'heure ?» demande l'agent. « C'est parce que je suis un mouton. Ce n'est pas inscrit sur vos papiers. »« Si, dit Marcel, à signe particulier, il y a inscrit « mouton ».»« C'est ok, dit l'agent. « Mais si vous êtes à pied, il faut rester sur le trottoir. » « Mais je vais beaucoup plus vite qu'un vélo, » dit le mouton Marcel. « Sûrement pas dans les descentes, » termine l'agent. Le mouton Marcel monte sur le trottoir et trottine entre les passants, toujours à la vitesse de 33 km à l'heure. Un autre agent de police le siffle. « Où allez-vous ? » lui demande l'agent. « Je visite la ville, » dit Marcel. « Vous devez être tenu en laisse. »« Mais je suis seul !» « Cela ne change rien. Seuls les animaux en laisse sont autorisés en ville. Il vous faudra d'ailleurs également une muselière. »« Mais comment vais-je faire pour brouter ?» demande le mouton Marcel. « Il est interdit de brouter en ville. »« Mais je suis un mouton libre !»« Vous êtes un mouton ?» s'exclame l'agent. « Je vous avais pris pour un caniche. Je n'aurais pas fait tant d'histoires. »« Les moutons ne ressemblent pas à des caniches, » dit Marcel. « Peut-être, » répond l'agent. Mais les caniches ressemblent à des moutons. L'agent retourne à la circulation et le mouton reprend sa promenade. Mais seulement à 31 km à l'heure parce qu'il a beaucoup parlé et qu'il est un peu essoufflé. Au bout d'un court instant, le mouton Marcel entend le coup de sifflet d'un nouvel agent de police. « Je suis désolé d'interrompre votre promenade, » lui dit l'agent, « mais je suis obligé de vous signaler que vous devez déposer vos crottes dans ce caniveau. » « Dans ce caniveau, » s'exclame le mouton Marcel, « mais ce n'est pas propre. »« Peut-être, » répond l'agent, « mais sur le trottoir, c'est sale. »« Bien, je le saurai, » dit Marcel. « Et ce n'est pas tout. Vous êtes sur un trottoir et vous avancez à la vitesse d'un vélo. »« Ah, sûrement pas dans les montées, » dit le mouton Marcel. « C'est possible, » dit l'agent, « mais là, vous êtes dans une descente. » « Alors, quelle est la vitesse limitée sur ce trottoir ?» demande le mouton Marcel. « Il n'y en a pas, » dit l'agent, « mais il ne faut gêner personne. Alors ne dépassez pas les 8 km à l'heure. »« Merci bien, monsieur l'agent, » dit le mouton Marcel. Il repart donc à 8 km à l'heure, ce qui tombe bien après tout car il a encore beaucoup parlé et commence à être réellement essoufflé. Au bout d'un moment, il aperçoit l'entrée d'un jardin zoologique. « C'est une bonne idée, » se dit le mouton Marcel, « j'aime bien les éléphants et les girafes. Je vais les visiter. » Il demande un ticket, mais la caissière lui refuse l'entrée. « Les animaux sont interdits au zoo !» Le mouton Marcel ne dit rien et s'en va. Un peu plus loin, il voit un jardin public. La porte est ouverte, il y a beaucoup d'herbe. « Je vais pouvoir manger un peu, » se dit-il. Il s'installe sur le gazon et commence à brouter. « Elle est bien meilleure qu'à la campagne, » se dit le mouton Marcel. « Il doit pleuvoir souvent en ville. » Puis, il entend de nouveau un coup de sifflet. Il lève la tête et voit un garde qui s'approche à grands pas d'un monsieur qui lit tranquillement son journal sur un banc. « C'est à vous ce mouton ?» lui demande le garde. « Ah non, il n'est pas à moi, » répond le monsieur. Ben, « Il n'y a personne à part vous. D'où voulez-vous donc qu'il vienne ?»« Je suis désolé, mais ce mouton ne m'appartient pas. » « Eh bien, je vous le confisque !» répond le garde. Le mouton Marcel, qui n'avait pas bougé, voit le garde commencer à poser le pied sur la pelouse interdite. Le garde court à la vitesse de 25 km à l'heure, avec des pointes à 38 km à l'heure, alors que le mouton Marcel court à 33 km à l'heure. Le mouton Marcel prend 150 mètres d'avance, mais tombe dans les bras d'un autre garde. « Je l'ai !» dit le garde numéro 2. « J'ai mes papiers sur moi !» dit Marcel. « Mais alors, pourquoi courez-vous » dit le garde numéro 1. « Mais vous m'avez fait peur !» dit Marcel. « C'est parce que vous n'aviez pas la conscience tranquille !» dit le garde numéro 2. « D'où venez-vous » demande le garde numéro 1. « De la campagne !» répond le mouton Marcel. « Je vais vous dresser un procès-verbal pour avoir marché sur une pelouse interdite. Comme vous avez deux fois plus de pattes qu'un homme, vous paierez deux fois plus cher. » « Excusez-moi, messieurs, mais ce mouton est à moi !» dit un monsieur qui passait par là et qui avait écouté la conversation. « Parfait !» dit le garde, il ne savait plus combien. « C'est vous alors qui paierez l'amende. Vous nous devez 100 francs. » Le monsieur paie et s'en va avec le mouton Marcel sous le bras. « Je vous remercie !» lui dit Marcel. « Je ne vois pas pourquoi, » dit le monsieur. « Je vous ai acheté pour 100 francs. »« Mais je ne suis pas à vendre !» dit le mouton Marcel. Et il a beau se remuer dans tous les sens, le monsieur l'entraîne vers sa voiture, l'enferme et démarre. On entend le coup de sifflet d'un agent de police. Le monsieur s'arrête et l'agent de police s'adresse au mouton Marcel. « Vous n'avez pas votre ceinture de sécurité !» lui dit-il. « Mais enfin, vous voyez bien que c'est un mouton !» lui dit le monsieur. « Eh bien, dans ce cas, c'est à vous de payer l'amende !» lui dit l'agent de police. Le monsieur paie et fait descendre le mouton Marcel qui commence à lui coûter beaucoup trop cher. Marcel en profite pour s'en aller assez vite et se trouve nez à nez avec un chien. « Bonjour !» dit Marcel. « Vous êtes de quelle race ?» lui dit le chien. « Mouton !»« Ah ben, je ne connais pas cette race de chien !»« Mais je ne suis pas un chien !»« Mouton, c'est une race de quoi alors ?» demande le chien. « De mouton !» répond le mouton Marcel. Ils repartent chacun de leur côté. Comme la lumière décline, Marcel s'inquiète de savoir où il va passer la nuit. Il commence à bêler jusqu'à ce qu'un agent de police s'arrête. « Pourquoi bêlez-vous ? » lui demande l'agent de police. « Mais parce que je ne sais pas où je vais passer la nuit, » lui dit Marcel. « Mais d'où venez-vous ? » « De la campagne. »« Je vous demanderai d'être un peu plus précis, » lui dit l'agent. « Je viens d'un troupeau de 331 moutons, » lui dit Marcel. « Et quel est votre emploi du temps ?» Le matin, nous nous levons à 5 heures pour brouter, nous mangeons jusqu'à midi, l'heure du repas, où nous avons droit à du repos. En échange de l'herbe, les brebis donnent du lait, de la laine et des petits. Nous autres, les moutons, nous ne donnons que de la laine. Le soir, le chien du berger vient nous mordre les mollets pour nous donner envie de rentrer à la bergerie. Le matin, dès 5 heures, nous avons faim et nous retournons brouter. « Bien, » dit l'agent. « Je vais vous indiquer une adresse où passer la nuit. Allez au 19 rue Albert. Il s'y trouve des gens qui aiment bien les moutons. »« Merci, » dit Marcel. Après avoir demandé son chemin plusieurs fois, Marcel sonne au 19 de la rue Albert. Une dame ouvre. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je suis un mouton. »« Et c'est pour quoi faire ?»« J'aimerais passer la nuit chez vous. » « Mais ce mouton est un amour !» dit la dame, qui le laisse alors entrer. « Prenez les patins !» lui dit-elle, lui en présentant quatre. Puis elle ajoute « Je vais vous montrer votre chambre !» Il monte au premier, où les attend une jolie chambrette avec une moquette bleue. « Vous avez un pot de chambre dans le placard !» dit la dame, qui rajoute « Désirez-vous vous laver les mains ?»« Je n'ai pas de mains. Comme vous voudrez !» Le mouton Marcel se glisse dans les draps, sensation inconnue jusqu'ici, et s'endort. Le matin, il est réveillé par un chat.
« Qui vous a autorisé à dormir ici ?»«
La maîtresse de maison. »«
Je suis le seul maître ici. »«
Ça m'étonnerait. »«
Je suis pourtant le seul à être servi, » dit le chat.
« Mais moi aussi j'ai été servi, » dit Marcel.
« Peut-être, mais le mouton est un animal inférieur. »«
Pouvez-vous vous expliquer ?»
« Facile !» dit le chat. « Un chat est plus souple, il court plus vite, saute plus haut, il a des griffes, il sait faire peur aux chiens, il ronronne, il mange de la viande et non de l'herbe, il peut même attraper des souris, il grimpe aux arbres, il est capable de marcher en équilibre sur une corde. Un mouton ne peut rien faire de tout cela, il ne sait qu'avoir peur, obéir et brouter. »«
C'est vrai !» dit le mouton Marcel, « mais un mouton c'est mignon. »«
Un chat aussi ?»
« C'est vrai, mais un mouton, c'est doux. »«
Un chat aussi. »«
D'accord, mais un mouton, ça donne de la laine. »«
Oui, » dit le chat, « mais il ne le fait pas exprès. »«
Exact. »« Mais tu fais exprès d'être plus souple et plus rapide que moi ?»«
Non, »
dit le chat. « Alors nous sommes quittes, » termine le mouton Marcel. Il descend dans la cuisine où il rencontre la dame qui fait chauffer le lait.
« Bonjour, que prendrez-vous pour déjeuner ?»
« De l'herbe, » dit Marcel.
« Allez déjeuner dans le jardin, alors, » dit la dame.
Dans le jardin de la maison, l'herbe est bien grasse. Le mouton Marcel commence à l'arracher avec sa langue. Au bout d'une demi-heure, la dame ouvre la porte.
« Avez-vous terminé ?»«
J'en ai encore pour 3 heures, » répond Marcel. Il broute jusqu'à midi bien sonné et rentre à l'ombre.
C'est dimanche, je vais vous ramener à la campagne, dit la dame.
Ils montent en voiture et partent à 60 à l'heure en direction de la Nationale 112.
Où est votre troupeau ? Demande la dame.
À 10 kilomètres.
Oh, ben ce n'est pas bien loin.
Mais je suis venu à pied.
Vous n'avez pas de pied, lui fait remarquer la dame.
Ils prennent la Nationale 112 et grimpent la première montagne.
Avez-vous peur des loups ? Demande la dame.
Il n'y en a plus depuis longtemps, répond Marcel.
Alors pourquoi restez-vous en troupeau ?
Ben on ne sait jamais.
Donc vous avez peur des loups ?
Non, puisque nous sommes en troupeau. Il passe un premier col.
Vous croyez que le troupeau vous protège des loups ? Demande la dame.
Non, répond Marcel, mais on a plus de chance ainsi que le loup choisisse les autres. Il passe un deuxième col et arrive en vue d'un imposant troupeau.
C'est là, dit le mouton Marcel.
La dame arrête la voiture, Marcel défait sa ceinture de sécurité et descend. Le chien du troupeau arrive en courant. Il titille les mollets du mouton Marcel pour le ramener au troupeau.
« Ce chien est méchant !» dit la dame.
« Non, il travaille !» dit Marcel. Il dit au revoir à la dame et rejoint le troupeau. Les moutons broutent et ne lui posent aucune question.
« Je suis là !» leur dit Marcel.
« Nous avons vu !» dit les moutons.
« Vous ne me demandez pas ce que j'ai fait ?» demande Marcel.
« On ne parle pas la bouche pleine !» disent les moutons.
« Vous pourriez vous arrêter un moment de manger ?» dit Marcel.
« Ce serait perdre du temps !» Or, le temps, c'est de l'herbe, disent les moutons.
Vous êtes suffisamment nourris ainsi, dit Marcel. Nous devons aussi nourrir notre laine, disent les moutons.
Vous n'êtes pas curieux de ma sortie ? Demande Marcel.
La curiosité est un vilain défaut, disent les moutons.
Vous êtes tout de même content de mon retour, dit Marcel.
Les moutons sont toujours contents, répondent les moutons.
Vous ne vous êtes même pas inquiété de mon absence ?
« Nous ne passons pas notre temps à nous compter !» disent les moutons.
« Savez-vous qu'en ville, il est interdit de poser ses crottes sur le trottoir ?»«
À la campagne aussi !»«
Mais à la campagne, il n'y a pas de trottoir !»«
C'est pourquoi on ne s'aperçoit pas que c'est interdit !» disent les moutons.
« Savez-vous qu'un vélo en descente va plus vite qu'un mouton ?» leur demande Marcel.
« C'est vrai sur route, mais pas sur pré !» répondent les moutons.
« Vous avez l'air de tout savoir, vous !»
C'est parce que nous sommes nombreux.
Vous ne savez pas à quoi ressemble une foule de gens dans une rue.
On dirait des moutons.
Est-ce que vous savez que l'entrée des eaux est interdite aux animaux ?
La sortie aussi.
Est-ce que vous savez qu'il existe en ville des jardins où l'herbe est bien meilleure qu'ici ?
C'est impossible.
Eh bien, vous vous trompez.
C'est impossible.
Pourquoi ? Parce que 300 moutons qui se trompent tous à la fois serait un événement tellement extraordinaire qu'il est impossible, répondent les moutons.
Il est impossible de rien vous apprendre, rétorque le mouton Marcel. C'est très difficile pourtant,
mais vous ne voulez pas que je vous raconte mon histoire ?
Nous sommes occupés.
Vous êtes des imbéciles, leur lance Marcel.
Sûrement pas tous, répondent les moutons.
Bon, dit Marcel. Et il ne dit plus rien, broute comme les autres. Après tout, il est un mouton, et l'herbe est bonne.
Le prochain numéro de Coqcigrues et Calambredon, nous allons vous offrir des histoires et contes autour des petits vieux et des petites vieilles. Ben oui, il ne faut pas les oublier quand même. Donc tout de suite, pour vous donner un avant-goût de cette jolie aventure, je vous propose l'histoire du petit vieux et de la petite vieille.
Le petit vieux et la petite vieille.
Il était une fois une petite maison qui était toute en selle. Dans la petite maison qui était toute en selle, il y avait un petit vieux qui était tout en selle et une petite vieille qui était tout en sucre. Le petit vieux et la petite vieille n'arrêtaient pas de se disputer. Il y avait des jours où ils s'aimaient, mais il y avait surtout des jours où ils se disputaient. Un jour, ils se sont disputés plus fort que d'habitude.
Et le petit vieux qui était tout en selle a dit à sa petite vieille
« Fiche-moi le camp, sale petite vieille en sucre !» Fiche-moi le camp, nom de gueule, nom de gueule, va te faire une maison en terre.
Et la petite vieille qui était toute en sucre est partie en pleurant. Elle s'est fait une petite maison, toute en terre, une très jolie petite maison. Mais elle était bien malheureuse dans sa petite maison. Elle n'avait plus son petit vieux. Un jour, elle était trop malheureuse. Elle a été à la maison tout en selle et elle a frappé au carreau.
Mon petit vieux ! Mon petit vieux !
Le petit vieux, tout en selle, est venu et il a dit
« Non, le gueule, non, le gueule ! Non ! Va dans ta maison en terre !»
Alors la petite vieille est repartie. Elle est rentrée dans sa maison en terre. Mais elle était si malheureuse dans sa maison en terre. Elle pouvait même pas pleurer. Alors elle a dit
« Ben moi je voudrais bien que le ciel pleure à ma place, tiens. »
Et il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir partout et à pleuvoir sur la petite maison qui était toute en selle. Et la petite maison en selle, elle s'est mise à fondre. À fondre. À fondre. Et le petit vieux qui était tout en selle, il est sorti de la maison. Il a traversé. Il a été jusqu'à la maison en terre. Et là, il a tapé à la porte. La petite est venue, la vieille, et elle a fait...
Non, alors non, certainement pas.
Et le petit vieux est resté devant la porte. Elle, de sa fenêtre, elle regardait. Et le petit vieux, comme il continuait à pleuvoir, il fondait.
Tiens-moi ça, ce vieux. Qu'est-ce que je fais? Hein? Bon, allez.
Et comme il fondait de plus en plus, la petite vieille, elle a ouvert la porte. Et le petit vieux qui était tout en selle est tombé dans les bras de sa petite vieille qui était tout en sucre. Ils se sont donné un baiser sur la bouche. Mais comme le petit vieux était mouillé, ils sont restés collés. Et quand ils ont été secs, il a fallu qu'ils se détachent. Et le petit vieux qui était tout en selle, après le baiser, il avait la bouche tout en sucre. Et la petite vieille qui était tout en sucre, après le baiser, elle avait la bouche tout en selle. Et depuis, on dit qu'ils sont très bien, toujours d'accord.
On est bien, on y va.
Allez, on se quitte en musique. Moi, je vous dis à bientôt dans Coxigru et Calambre d'Aisne, donc émission disponible dès à présent et ce, de manière illimitée, sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Histoire et Contes et plus précisément Coxigru et Calambre d'Aisne. Chers auditeurs, enfants, adultes, grands-parents, vous êtes les bienvenus, bien sûr, pour vous joindre à la team de Coxigru et Calambre d'Aisne et nous offrir les histoires de vos choix. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans Coxigru et Calambre d'Aisne. Bye bye.
Thank you. du serpent fut mordu et ils se virent la paire.
Il était une fois un père Gaglu qui vivait dans la forêt parce qu'il avait été chassé de son village par des méchants jaloux. Parce qu'il avait une belle maison, il avait beaucoup de terre, il était intelligent et surtout, il aimait bien blaguer. Alors les gens ne l'aimaient pas du tout et il lui avait fait une crasse quelconque, dont je ne me souviens plus. Et le père Gaglu avait été obligé d'aller vivre dans la forêt. Il vivait dans la forêt, dans une cabane en haut d'un arbre. Il sortait très peu, il sortait même quasiment jamais, sauf ce soir-là. Parce qu'il avait été invité par des amis qu'il avait gardés, des amis, des vrais amis, qu'il avait invité à dîner. Alors il avait été dîner. Le dîner était très bon, hein, c'était très bon. Et ils avaient pas mal bu aussi, parce qu'ils étaient contents de se voir. Alors ils avaient bu un coup par là, un coup par là. Et le père Gaglu était fatigué. Alors il a dit, je suis fatigué.
J'ai un coup de bord, moi.
Ses amis lui ont dit, mais non, Gaglu, t'es fou, il est tard, tu vas...
Gaglu, t'es fou, il est tard, et tu vas...
Mais Gaglu, non, je veux rentrer, allez, j'y vais.
Mais je veux rentrer, j'y vais.
Et le voilà parti, à travers champs, à rentrer chez lui dans la forêt. Il faisait une nuit pas complètement noire, il y avait un peu de lune. Et il marchait dans les chaumes, dans les champs, à travers la forêt, pour aller vers la forêt. Pendant ce temps-là, sous des chaumes, justement, sous de la paille, il y avait une vipère. Une vipère qui était triste. Qui était triste parce qu'elle était seule. Quand le champ avait été moissonné, la plupart de ses amis avaient été tués par la moissonneuse batteuse et elle restait seule là. Donc elle était un peu triste et elle était là sous sa paille, elle s'ennuyait. Alors elle buvait un petit coup, avant de se coucher, voilà, pour se donner le moral. Elle buvait un petit coup de gnôle. Bon. On va faire une petite pause là. Hein. D'accord.
C'est l'histoire de Père du Père Gaglu. Ça va rouler par terre. Gaglu. Et de la vipère au temps crochu. Sifflant son dernier verre. Le Père Gaglu avait beaucoup trop bu. Comme à son ordinaire.
Alors, le père Gaglu marche à travers champs, et la vipère est là en train de boire un coup parce qu'elle est triste, elle s'ennuie toute seule. Le père Gaglu avec ses grandes bottes, et boum, 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 qu'avance là dans le champ, en titubant un petit peu, comme boum, parce qu'il est quand même pas complètement fini, hein. Il est un peu vitrifié, le père Gaglu, tout de même. Et là, la vipère qui... Et bon, évidemment, ce qui doit se produire, c'est-à-dire que la vipère, le père Gaglu marche et... Hop. Il marche en plein sur la vipère. Enfin, pas en plein, sur sa queue, quoi. La vipère immédiatement se dresse.
Je me dresse.
Comme ça. Et elle dit au père Gaglu, non mais dis donc, oh, hein? Oh, tu veux que je te morde? Hein? Oh. Parce qu'elle est en colère, et puis c'est quand même une vipère. Père Gaglu n'a pas franchement peur, parce qu'il en a déjà vu des vipères, mais enfin quand même, il n'aimerait pas se faire mordre. Il dit...
Mais excuse-moi, je suis pourvu, parce que t'es... Hein?
La vipère dit oui, mais enfin tout de même, etc. etc.
Bah oui, mais enfin tout de même, etc. etc.
Le père Gaglu dit...
Pourquoi tu es caché?
Vipère dit non...
Non, mais je ne suis pas caché.
Ah bah si.
Là, bon. Et puis, en lui parlant comme ça, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en parlant à la vipère, Le père Gaglu la regarde dans les yeux comme ça, et tout d'un coup, pff, il tombe amoureux de la vipère. Je veux dire pourquoi. Bon, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'il vit tout seul dans la forêt, mais enfin, de là, non ?
Qu'est-ce qu'il veut dire, les chambres, non ? Alors, bon.
Le père Gaglu dit à la vipère, dis donc.
Dis donc, ça te ferait plaisir de venir à la maison ? Ouais, avec moi.
Et la vipère, elle est pas contre, hein ?
Je suis pas contre, hein ?
Alors les voilà, qui rentrent, qui vont partent ensemble chez le père Gaglu. La vipère est assez contente, qui commence à dire...
Si tu veux, je te ramènerai plein de souris de forêt, la vaisselle, et je te ramènerai de l'argent.
Non, pas question, je veux pas vivre à tes crochets.
Bon, voilà, hein. On a fait dodo maintenant.
C'était l'histoire de Père du Père Gaglias. On a voulu partir à Gaglias. Et de la vipère au temps crochet. Sifflant son dernier verre. Le Père Gaglias qui avait beaucoup trop bu. Comme à son ordinaire. Soudain du serpent fut mordu. Oui, et ils se firent la paire.
Aussi. Allez, hop, 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 hop. Une sacrée paire, tous les deux. Les abeilles volent de fleur en fleur avec leurs petites boules de pollen. Elles ne trouvent jamais le bonheur, alors elles butinent pour oublier leur peine. Pour réchauffer leur petit cœur, elles portent de gros pulls en laine, en jaune et noir, les deux couleurs. Du miel et du blason de la reine. Et à chaque fois qu'elles se posent, les abeilles pour butiner, à chaque fois elles déposent un peu de pollen,
mais sans le faire exprès.
Et sur les fleurs, les effets de cette cause ne tardent pas à se montrer. Tout à coup, tous les indisposent
et leur ventre commence à gonfler.
9 mois plus tard, elles éclosent et sous nos yeux, émerveillées, les filles naissent dans les roses et dans les choux.
Les filles naissent dans les roses et dans les choux naissent les garçonnets.
Samson, 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 Samson.
les abeilles repartent de fleur en fleur avec leurs petites boules de pollen. Elles ne trouvent jamais le bonheur, alors elles butinent pour oublier leur peine. Pour réchauffer leur petit cœur, elles portent de gros pulls en laine, en jaune et noir, les deux couleurs du miel et du blason de la reine.
Coxigru et Calambre d'Aine.
Coxigru, gru et Caxangle Belle. Coxigru et Calambre d'Aine. Coxigru et Calambre d'Aine.
Coxigru et Calambre d'Aine.